société avec Nick Payne.
Bonjour à tous. Oui, Nick Payne au microphone. Très, très heureux d'être de retour avec vous ce matin. Nous sommes le 6 janvier 2020. Il va falloir s'habituer à dire ce chiffre qui sonne rond, qui sonne bien. 20, ça rime avec bien. Bon, voilà, je viens d'y penser comme ça en direct avec vous, chers auditeurs. Merci d'être à l'écoute. Ce matin, nous allons discuter. Nous allons faire un retour d'abord sur, non pas l'année qui vient de se terminer, mais la décennie 2010 qui vient de se terminer, puisque il s'en est passé des choses, on pourrait dire ça évidemment au terme de chaque décennie, mais en l'occurrence, cette fois-ci, tout de même, il y a beaucoup d'éléments qui font, il faut le dire, là, chez les observateurs, assez consensus, là. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Je pense à l'avènement des réseaux sociaux, à toutes sortes de transformations politiques, on va y revenir. Donc, bref, on se penche sur ce qui a sinon marqué, en tout cas caractérisé la décennie 2010. Et puis, on va également discuter de un peu d'actualité. Il s'est passé toutes sortes de choses dans le temps des fêtes. Et parce que l'actualité n'attend pas les gens comme nous pour se dérouler, n'est-ce pas? Et nous allons aussi parler de ce qui, d'après nos analystes ici, s'en vient en 2020, en politique au Québec comme à l'international. C'est le cas d'ailleurs aussi dans les autres espaces d'observation que nous allons habiter ce matin. Alors, j'ai avec moi en studio quelqu'un qui vient un peu moins souvent, qu'on est heureux de voir ici. Ça faisait un moment qu'on l'avait reçu, Ludovic Moquin-Baudry.
Bonjour, Nick.
Professeur de philosophie au Cégep de Saint-Jérôme. Vous avez été, parce que je parle toujours des allégeances politiques des uns et des autres ici, assez actif chez Québec solidaire.
Tout à fait. Cas.
Vous avez une belle feuille de route, tout auréolée de la dernière victoire. Vous jouiez un rôle assez important à ce moment-là.
Oui.
Je dis victoire, la belle performance de QS.
C'est ça, ce serait présomptueux de parler de victoire.
Quel lapsus ou pas, c'était quand même une belle
réussite, disons.
Un gros progrès, un progrès certain. Et puis, notre incontournable libéral en résidence, William Corbatly, c'est un habitué, lui. Bonjour, bonne année à vous deux.
Et bonne année à toi aussi.
Bonjour, William. En quelques mots, parce qu'on va aller jaser avec Steve Fortin dans un instant, puis un peu plus tard, Nicolas Vidal nous racontera comment il voit les choses, lui, et ce qui se passe en direct de Paris, mais en Europe plus largement. Mais pour le Québec et le monde, peut-être en commençant par le Québec et le Canada, disons, William Corbatly, ou le monde aussi, hein, c'est pas grave, vous pouvez. La décennie 2010, en quelques mots, on va y revenir plus en longueur dans quelques minutes, mais si vous deviez résumer en quelques mots seulement ce que vous retenez de cette décennie-là, vous?
Bon, j'ai pris des notes, je vais le dire en rafale.
Oui, parce qu'on va approfondir ensuite.
Oui, c'est ça. Alors, on parle de changement climatique, la fin de l'accord de Kyoto et l'accord de Paris, le mouvement MeToo, l'amélioration des droits des Autochtones, mais il y a beaucoup de choses à faire, bien entendu. La même chose pour les LGBTQ, la transformation des sources d'information et surtout les médias sociaux, la montée des politiques populistes. Au niveau du monde aussi, on voit en Occident la montée de l'islamophobie, l'antisémitisme, le printemps arabe évidemment, l'élection du premier président noir aux États-Unis, la première femme premier ministre au Québec aussi, le leadership québécois par rapport à la lutte contre le changement climatique et la bonne performance économique. Alors c'est en rafale, je pense que ces choses, selon moi...
Alors, on va avoir de quoi discuter. Ludovic Moquin-Baudry, pouvez-vous faire plus original que ça? C'est quand même, quand je disais qu'il y a consensus, qu'on soit à gauche, à droite, au centre, ailleurs, c'est vrai que la question des populismes, les réseaux sociaux, parce que tout ce dont vient de parler William Corbatly nous est arrivé aussi à travers la lorgnette des réseaux sociaux, puis
oui,
peut-être qu'ils ont joué un rôle dans notre façon d'apprécier chacune de ces questions-là aussi.
Oui, tout à fait. Bon, les réseaux sociaux ont émergé à la décennie précédente, mais c'est durant la décennie 2010 qu'ils ont vraiment pris un rôle central dans la dynamique politique et sociale. Je ne répéterai pas, la liste que vient de faire William est assez exhaustive, mais je pourrais peut-être rajouter, au lieu de parler de l'émergence des populistes, parce que je le vois comme un symptôme d'une dynamique qui est plus large, celle de la crise des démocraties, je pourrais y revenir plus longtemps là-dessus tantôt, également au Québec, j'ajouterais deux choses. Le déclin des deux grands partis d'alternance au pouvoir, le PLQ, le PQ, et la grève étudiante de 2012 qui a été un élément fondateur pour une génération là, en termes de politique.
On l'oublie un peu dans nos revues de la décennie, mais c'est extrêmement important.
Et
Québec,
on pourrait parler longuement des ramifications de cette grève-là, parce que je pense qu'on a juste vu le début, en fait.
En effet. Alors, allons voir ce qu'en pense d'abord, puis ensuite, on pourra commenter ensemble. Notre ami Steve Fortin, chroniqueur au Journal de Montréal, il est quelque part dans le Québec, je présume, comme d'habitude. Bonjour, Steve Fortin.
Oui, bien, c'est ça. C'est vrai qu'on en a fait de la route, me semble-t-il, mais c'est comme ça. Il est grand, ce Québec, et puis, avec la famille, on l'habite vraiment de bout en bout.
Bon, alors voilà, quelle entrée en matière poétique, ou presque. Steve Fortin, la décennie 2010-2019, devrait-on dire, d'abord. Quels éléments, puis on peut aller un peu plus en détail avec vous, ont retenu votre attention? Qu'est-ce qui marque ou qui caractérise cette décennie?
Ben écoute, c'est difficile de dire que c'est dans cette seulement dans cette décennie-là. Puis déjà, les invités avant moi ont touché à beaucoup de sujets. Mais moi, je te dirais en tout cas, il s'est passé quelque chose dans les 10 dernières années qui ça a commencé un peu avant, mais en tout cas, ça s'est certainement affirmé là. Il y a une fracture qui s'est passée au Québec entre le Québec métropolitain, puis le Québec des régions, le Québec de Montréal, puis le reste. Ça, c'est assumé. Ça a amené avec lui, justement.
Alors ça, on voit ça ailleurs aussi. Hein?
On voit ça aussi. On le voit au Canada, quand on regarde la carte électorale de 2018, puis je regarde ce qu'il est en train de faire, parce que je collabore beaucoup avec Frank Graves, puis la firme Ecos, puis je regarde là, les études qu'on est en train de faire sur le vote, comment le vote s'est décliné, tout ça. Bien, cette fracture-là existe, bien entendu, et elle se décline aussi sur les axes idéologiques le plus souvent. Donc, cette fracture-là, région, ville, au Québec et au Canada, mais en tout cas, au Québec aussi, c'est passé quelque chose dans cette décennie-là. Il y a quelque chose aussi sur lequel il va falloir qu'on se penche à un moment donné. C'est loin d'être réglé. Il y a eu une crise dans les médias. Et ce qui va se passer, à mon avis, en tout cas, c'est que ça va accoucher de nouveaux modèles dans l'industrie des médias. Mais perdu dans tout ça, c'est en quelque sorte là, l'importance que le média d'information, que la fonction d'informer, elle décline, elle périclite au profit de si on veut, de toujours plus de commentariat puis de d'opinion. Et il faudra que dans cette... Parce qu'il faut que les gens vivent. Et puis, à un moment donné, tu sais, les consortiums médias eux-mêmes, les grands groupes médias, tous, peu importe, là, moi, on m'attache beaucoup à Québécois, mais je veux dire, je travaille ici chez vous, je vais à Radio X, je vais à Radio-Canada, je suis un peu partout. Puis, je le vois. Et un beau modèle qui est apparu au cours des dernières années, c'est dans certaines régions des médias indépendants régionaux qui se réinventent complètement et qui s'appuient sur le financement le plus souvent privé, donc des entreprises et des initiatives privées. Et moi, je suis fier de collaborer à un journal local ici qui a été lancé par des ex de Transcontinental qui connaissaient bien la game, mais qui ont décidé de changer le modèle complètement, puis ça fonctionne très bien, puis c'est un beau média d'information, ça s'appelle le journal Les Deux Vallées. Et puis, on peut aller le consulter, ça vaut la peine. Et il y a là quelque chose dont on peut apprendre, duquel on peut apprendre. Et dans la région ici, bien entendu, il y aura aussi, au cours des prochaines années, mais ça avait commencé avant, on en parle depuis longtemps, mais le journal Le Droit, qui est un ancien du groupe Capital Média, ben lui aussi est en train de se réinventer un petit peu à côté des autres. Mais là, il risque d'y avoir un gros, gros changement de ce côté-là s'il fallait qu'on le délocalise d'Ottawa vers le Québec pour suivre le reste de GCM.
Mais c'est ça. Alors, on le dit pour nos éditeurs, là, aussi, là. Vous êtes dans l'Outaouais. Donc, cette crise des médias, vous en parlez beaucoup. Clairement, ça fait partie de vos sujets de prédilection. D'ailleurs, on évoquait l'avènement, là, la consécration, la cristallisation du phénomène des réseaux sociaux comme facteur de changement dans cette décennie. Ça fait partie, justement, des effets de ce phénomène-là, là, la crise des médias, les recettes publicitaires qui sont donc accaparées ailleurs, en l'occurrence ici par des grands groupes, souvent américains. Est-ce que vous venez nous en parler? Est-ce que vous voyez une sortie de crise? Comment voyez-vous la suite des choses?
Sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on oublie parfois de rappeler à quel point. Je vais prendre l'exemple du réseau Twitter, tu sais. Puis moi, je vois des gens qui s'excitent beaucoup là-dessus. J'ai moi-même, je suis assez actif là-dessus, mais je garde toujours quand même à l'esprit qu'il y a très, très peu de gens au Québec qui sont sur ce réseau-là. C'est un réseau d'initiés. Le réseau politique sur Twitter est encore plus initié. Il ne faut pas lui donner plus d'importance que qu'il a vraiment. C'est un bon moyen de partager de l'information pour discuter et débattre un peu moins. Mais dans la grande façon de voir les médias, il va falloir se réinventer. Moi, je vois une sortie de crise dans la mesure où on est capable de bien adapter les médias aux clientèles que ceux-ci veulent desservir. T'sais. Puis il y a de la place et il y a de la place pour le journal Le Devoir. Puis il y a de la place aussi pour le journal de Montréal et pour un journal comme La Presse. Et puis il faut bien être capable de déterminer qui on vise. Puis si on le fait, me semble-t-il qu'on sera même. Mais tu sais, ça se fera pas sans qu'on, à un moment donné, qu'on vise un petit peu plus d'équité et de justice fiscale là, par rapport aux autres, tu sais, aux GAFA, comme on le disait, aux GAFAM maintenant. Mais tu sais, on n'aura pas le choix de voir à ça, mais il n'y aura pas que ça. C'est pas juste ça qui va permettre de faire en sorte que les médias vont survivre. Le modèle coopératif qui est en train de naître, ben ça, c'est une autre avenue. J'ai hâte de voir comment que ça va se passer. Et pour ceux qui s'intéressent, parce que je suis le dossier de près, n'écartons pas si on veut l'espèce de contestation là que les retraités de ces journaux-là ont lancé, parce que il y a là quand même un petit peu plus de traction qu'on pense.
À inscrire dans les nouvelles à suivre. Donc, ouais. Twitter, relativement circonscrit. Évidemment, il y a Facebook. Avant qu'on quitte le champ, quittons un instant le champ économique et parlons davantage du champ politique. Il en demeure pas moins que plusieurs observateurs pensent que les réseaux sociaux participent de ce phénomène de chambre d'écho, de compartimentation de l'opinion, qui fait qu'on pulvérise un peu le portrait, le paysage politique. Est-ce que c'est vrai selon vous? Est-ce que il est vrai que diverses écoles de pensée arrivent à s'agglutiner, se fédérer plus facilement, même si elles sont relativement marginales à notre époque, que dans le début des années 2000 ou à la fin des années 90, par exemple?
J'en doute. Dans les années 90, fin 90, il y avait d'autres moyens de fédérer les gens autour d'idées qui étaient parfois un petit peu marginales ou même. Tu sais, j'ai des doutes. J'hésite à penser que les seuls réseaux sociaux seraient les vecteurs de ça. Si on veut regarder la montée des populismes, qu'ils soient de droite ou de gauche, parce qu'ici au Québec, on a un bon exemple des deux. Si on veut regarder la montée des populismes, ben, il faut aussi regarder sur ce qui crée des conditions pour que ces populismes-là soient capables de proliférer. Puis, d'une certaine façon, je veux dire, la manière dont on conduit la politique aux États-Unis, mais aussi au Québec et au Canada, ben, les conditions ont été parfaites pour que ces populismes-là, de droite et de gauche, puissent s'exprimer. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est une partie de ça, mais il n'y a pas que ça. Et tu sais, c'est mon oncle Jacques là qui est derrière son clavier puis qui est pas content que, par exemple,
qu'est-ce que vous avez contre les mononcles, vous?
Non, mais tu sais, je te donne un exemple. Mon oncle Jacques qui est derrière son clavier puis qui est vraiment pas content que, par exemple,
que Québec solidaire ait scrappé la convergence avec le PQ.
Ben, ça, c'est drôle. Ça m'a fait
rire. Ah non, ça, c'est mon oncle Steve, ça.
J'ai ça avec Jean-François Lisée, puis là, tout à coup, j'imagine les gens de Québec solidaire, ils seront pas contents de lire ça, mais garde, ça,
Le texte de Jean-François Lisée dans Le Devoir aujourd'hui, oui.
Pardon?
Oui, vous parlez du texte de Jean-François Lisée dans Le Devoir aujourd'hui qui revient sur cette question-là. Et puis, je vous taquinais, évidemment, parce que vous avez vous-même critiqué Québec solidaire dans ce dossier-là. Fin de la parenthèse.
Mm-hmm. Mais je suis pas sûr, en terminant, Nick, que les réseaux sociaux soient les seuls, facteurs, ou même...
Non, ben c'est très intéressant ce que vous dites.
Pour que ça arrive avant.
C'est intéressant ce que vous dites. Donc, on aurait tort de voir dans ce phénomène-là la cause, ou en tout cas de lui donner plus de tirando ou de traction qu'il n'en a. C'est-à-dire que c'est une nouvelle forme de, dans le pire des cas, là, de taverne à ciel ouvert. On lit un paquet de choses qu'on entendait dans des lieux clos autrefois, mais qui ne sont finalement pas si nouvelles que ça et qui, au final, n'ont peut-être pas l'importance qu'on leur prête. Moi, en tout cas, que j'ai tendance à leur prêter peut-être plus que vous.
Ben, regarde, tu te souviens de Louis Bernard, l'apparatchik qui a été derrière les gouvernements péquistes, un mandarin quand même qui était très, très respecté.
Candidat à la chefferie du Parti québécois dans le milieu des années
2005.
Oui, exactement. Ben, tu vois... J'ai eu la chance de... On discutait de ça à un moment donné quand je l'ai rencontré il y a je sais pas moi, 2 ans de ça, la dernière fois qu'on a discuté ensemble. Mais j'accordais trop d'importance à ce moment-là, à ce qui se passait. Puis lui, il m'expliquait qu'à l'époque, là, on a été capable de créer des grands mouvements, si on veut, là, de je sais pas moi, d'enthousiasme derrière des idées, puis c'était avant les réseaux sociaux, mais il le faisait comment? Il le faisait par le partage d'idées, par les moyens qu'il avait à ce moment-là, puis il avait avec lui, parce qu'il traînait toujours une chemise, il avait avec lui différents tracts, là, puis il l'avait amené pour une réunion à laquelle j'assistais à ce moment-là, puis et là, il m'a dit, ben voici, c'est comme ça qu'on fonctionnait à l'époque, puis la différence, c'est que, ben écoute, nous, si on voulait créer un événement pour 1976, par exemple, quand ça a été le temps de dire on va appeler les gens à voter pour nous, puis ça, ben, il a envoyé 4 grands ténors du Parti québécois dans 10 lieux différents géographiques, puis ils se sont interreliés par connexion radio, puis ils faisaient des événements, puis ils disaient, bon, ben, dans l'aréna, dans le centre communautaire ou l'aréna à Matane, il va y avoir quelqu'un, telle personne va être là et tout ça, puis on le faisait différemment. Maintenant, la chapelle a changé, mais c'est dans les idées, où on manque quelque chose, où il y a comme une espèce de difficulté à être capable de rassembler, puis de dire, ben on va le faire. C'est ça qui nous manque. Puis les réseaux sociaux pourraient bien être cette nouvelle façon de le faire là, mais on dirait qu'on n'arrive pas à créer cette traction-là, cet enthousiasme-là, sinon que selon moi, très, très parcellaire. Là.
Alors, vous ouvrez une autre fenêtre dans laquelle on n'a pas le temps d'aller, mais vous parlez, au fond, de peut-être la difficulté de se renouveler en politique ou d'un certain manque de talent ou d'idées neuves qui ferait consensus.
Il n'y a pas grand-chose qui est très, très inspirant en ce moment. On aurait beau avoir le meilleur réseau social du monde, c'est dans les idées qu'on manque quelque chose. C'est dans les idées qu'on est incapable de fédérer les gens autour, que ce soit moi à titre de souverainiste, d'indépendantiste, mais même du côté, tu sais, du point de vue de l'environnement, on rassemble 500 000 personnes à Montréal, ensuite, chacun retourne chez lui, on a beau avoir les meilleures photos du monde et les partager sur Facebook, à un moment donné, si les gens qui sont derrière le pacte, par la couverte, disent, ben garde, on va avoir Stephen Guilbeault, il va aller là et tout ça, mais on n'y arrive pas, c'est qu'il manque le dernier jalon, puis c'est pas les réseaux sociaux qui vont le poser, celui-là. Puis à l'époque, ben, on n'avait pas les réseaux sociaux, puis il a manqué encore un petit quelque chose aussi.
Alors, allons rapidement sur ce que vous voyez arriver pour 2020. Je vous lis ces jours-ci, vous êtes très attaché à la question du chemin Roxham et du passage là, de l'immigrant à cet endroit-là. Est-ce que c'est parmi les sujets que, de l'heure, d'après vous, là, dans les mois qui viennent? Vous faites le suivi d'une vieille nouvelle. Est-ce que
J'ai traité de ça parce qu'on en parle dans le temps des fêtes, mais surtout, ça m'a intéressé parce que ça m'a rappelé qu'en 2017, quand j'étais pour le boulot au Manitoba, je me souvenais de ça. Tu sais, ça avait fait les manchettes à l'époque. Il y avait 2 migrants qui avaient pris la trail là, vers Emerson au Manitoba, puis il y en a un des deux qui avait souffert de graves engelures. Il avait dû être amputé des doigts et tout ça. Puis on parlait beaucoup, beaucoup de ça. Mais moi, je me souvenais qu'à l'époque, les gens... tout aussi, tu sais, il était très, très, autant qu'il était pour l'accueil le plus possible, ça, mais de dire, par exemple, au Manitoba, tu te faisais pas traiter de raciste, tu te faisais pas traiter de xénophobe quand tu disais que tu sois de droite ou de gauche, ben, il me semble que faire respecter la frontière, c'est la moindre des choses, il y a un poste frontière là, faut qu'on trouve une manière que les gens soient pas obligés de passer par cette trail-là pour essayer d'arriver à leur fin, tout ça. Puis, il y avait eu quand même pas mal de grogne, puis ce qui s'était passé, c'est que ben on a colmaté la brèche, puis on a dit, ben voilà, on peut pas passer par là. Là, c'est ça, tout ça, ça se passe au chemin Roxham, puis bientôt, on va être à 100% de tous les entrées irrégulières qui vont se faire par là, ben parfait. Mais je veux dire, ça peut pas être une solution, je veux dire, complète et assumée. C'est là, à un moment donné, c'est supposé être temporaire. Mais en entrevue à une des antennes pour laquelle je travaille, chez Québécois, moi, j'entends le président des syndicats des douaniers, puis il dit que, ben écoute, on va pas s'habituer, ça va être comme ça, puis ça va demeurer comme ça. Mais moi, j'entends quelque chose là qui est en train de devenir permanent. Ça peut pas être une solution permanente, ça. Il faut trouver une autre solution à ça. Puis je trouvais que c'était important d'en parler là, parce qu'on voit qu'il y a encore recrudescence, puis que, ben écoute, c'est un problème. Puis quand je parle avec Frédéric Bérard, j'aurais aimé ça qu'il soit là pour qu'on puisse en discuter, parce qu'on s'est parlé beaucoup de ça dans les derniers jours, lui et moi, mais quand j'en ai parlé avec Stéphane Anfield, qui lui, comme avocat, va défendre ces gens-là, ben il me disait la même chose. Premièrement, il faut démystifier le fait que ces gens-là sont pas des illégaux quand ils sont ici. Moi, j'étais sous l'impression que le passage demeurait illégal, puis il y a beaucoup de juristes et de législateurs qui insistent là-dessus, mais moi, je suis prêt à admettre ça. Pas de problème, de toute façon, c'est pas ça qui est important. Mais dans les deux cas, ils me disent, peu importe de quel côté on se penche sur cette petite terminologie-là, il faut trouver une solution à ça, parce que ça peut pas être quelque chose qui demeure et qui soit permanent.
Alors, Stéphane Anfield, cet avocat spécialisé en droit de l'immigration, dont on apprenait il y a quelques jours qu'il songerait à la chefferie du Parti québécois, c'est dans les actualités de cette année, ça aussi?
Oui, en passant, Stéphane Anfield, il me disait que quand l'article est sorti, ça n'a pas pris deux secondes que, comme d'habitude, ce qui se passe, il songe à la chefferie du PQ. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ça n'a pas pris deux heures après que l'article soit sorti, qu'on le traitait de xénophobe, de raciste et tout ça. Puis ça le fait réfléchir. Je te le dis, je sais même pas s'il serait content que je dise ça, mais maintenant, il va falloir qu'on arrête, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui essaient d'associer là, automatiquement l'étiquette PQ à racisme et intolérance. Ben ça pourrait nous priver d'un candidat de très, très grande valeur. Stéphane Anfield, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Puis s'il y a quelqu'un qu'on peut pas taxer de ça, c'est bien lui. Mais comme de raison, c'est toujours les mêmes qui...
La politique, hein, c'est une arène, des fois, il y a de la boue qui s'empoigne facilement et qui peut être lancée.
Dans ce cas-là, je pense qu'on est plus du côté de la marbre.
Quelle belle façon de terminer votre chronique. Je suis désolé, Steve Fortin, ça finit là-dessus. J'aurais voulu qu'on termine plutôt dans la confiture.
C'est bien correct comme ça. Puis à un moment il faut appeler les choses par leur nom. Puis, et moi, je souhaite vraiment et ardemment que Stéphane Anfield le considère vraiment, puis que le PQ s'enrichisse de quelqu'un comme lui qui nous aiderait beaucoup, beaucoup, justement, à avoir des voix probantes là, auprès des communautés culturelles qui connaîtraient bien.
On le recevait récemment, cette émission. On va sûrement lui en parler bientôt. On aurait pu parler pendant encore une heure, Steve Fortin. On va continuer avec nos invités ici, qui vous saluent, et je vous salue moi aussi.
Je les salue aussi, je vais écouter votre discussion avec intérêt.
Bonne année, à une prochaine.
OK, salut bien.
Salut. Ludwig Moquin-Baudry, revenons un instant. Là. On recule dans la décennie 2010, les réseaux sociaux. Steve Fortin nous dit, c'est intéressant parce qu'on entend un peu moins cette contrepartie-là qui dit oui, c'est important, mais bon, jusqu'à un certain point.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que Steve Fortin dit.
J'aurais tendance aussi, mais je pense qu'on est quelque part, on peut... C'est le verre à moitié plein puis à moitié vide. Autrefois, on se réunissait dans des sous-sols en fumée. Maintenant, c'est dans le confort des groupes Facebook souvent, mais il y a des facteurs quand même à chaque génération qui permettent la mobilisation. Autrefois, ce que Steve Fortin ne dit pas, c'est qu'il y avait une génération extrêmement nombreuse, les baby-boomers, et puis on les mettait dans la rue, et puis ça faisait tout de suite un événement. Les X n'auraient pas pu faire ça, par exemple.
Oui, bien les X, il y avait aussi d'autres circonstances qui étaient les leurs, qui n'étaient peut-être pas technologiques ou simplement démographiques.
Mais en effet.
Je suis assez d'accord avec ce que Steve Fortin disait, dans le sens où, en fait... Peu importe l'époque, les mouvements politiques ou sociaux vont s'incarner à travers différents médiums technologiques qui sont ceux de leur époque. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas faire une révolution comme en 1789, par exemple, en France, où est-ce qu'on imprimait des journaux de manière clandestine. Aujourd'hui, distribuer des journaux ou des papiers dans la rue, ce n'est pas ça qui attire l'attention des gens. Donc, il faut aller chercher les gens là où leur attention se trouve. Et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Demain, ce sera autre chose. Moi, je me rappelle en 2011, justement, quand le printemps arabe commençait, puis là, on voyait des articles un peu... techno-enthousiaste qui disait « c'est la révolte des réseaux
Facebook,
sociaux,
oui.
De Facebook, de Twitter, tout ça ». Mais oui, c'est l'outil, mais définit-on les mouvements sociaux dans l'histoire par leur expression technologique? Je ne crois pas. Et donc il faut regarder, en effet, les causes profondes de ces différents mouvements-là. Quelles sont les causes sociales, économiques et autres? Aujourd'hui, on pourrait prendre chacun des mouvements.
Les moteurs là, du populisme, par exemple.
Par exemple. Parce que du populisme, bon, là, il faudrait définir ce thème-là.
Duquel s'agit-il?
Oui, c'est ça.
Celui de Chantal Mouffe à gauche.
Ou celui
de Salvini, Trump et compagnie.
Exact. Puis je veux dire, le populisme n'est rien de nouveau. Je veux dire, on remonte au 19e siècle, il y en avait des mouvements qu'aujourd'hui on pourrait qualifier de populistes.
Ouais.
Donc, mais peut-être une petite chose par rapport aux réseaux sociaux, et justement, tu t'en parlais tantôt, ils ont quand même une dynamique propre, et chaque médium technologique a sa dynamique propre, et je vois du côté des réseaux sociaux l'idée que, par la force des algorithmes, on peut se retrouver rapidement entre personnes qui pensent pareil.
Hein. Ça amplifie ça, certainement.
Exact. Hein. Moi, je dois avoir 2500, 3000 amis Facebook. Je ne vois pas tout ce que ces gens-là publient. Puis, j'ai des gens qui pensent différemment de moi que je vais avoir moins tendance à voir dans mon fil, un peu par la force naturelle des interactions. L'algorithme dit « t'aimes ce genre de contenu-là, on va t'en montrer plus ». Et donc, ce que, par exemple, se promener dans la rue, recevoir des tracts politiques, ça nous exposait à différentes idées. Aujourd'hui, c'est plus difficile.
Qui a eu profilage à l'époque. Vous êtes, tiens, lui, il y a une bonne bouille de gauchistes, on lui donne des tracts marxistes ou je ne sais trop. Mais c'était probablement moins. Effectivement. Alors, c'est cette espèce de logique commerciale aussi
qui
influe sur. Alors, sinon sur les mouvements de fond, en tout cas sur notre façon de débattre aujourd'hui, on est peut-être un peu plus en vase clos. Est-ce qu'il y a un peu plus de difficulté
peut-être.
D'écoute entre les différentes factions?
Mais aujourd'hui, c'est aussi que tout le monde peut prendre parole. De manière pas égale, bien sûr. Il y a encore des gens qui ont des micros, qui ont des chroniques, qui ont ce genre de choses-là. Mais monsieur, madame, tout le monde peut y aller de son commentaire sur les réseaux sociaux qui sera vu par tout le monde. Alors qu'avant, on se disait ça entre nous ou dans le confort de notre salon. Aujourd'hui, tu sais, j'entends des choses comme « il faut réapprendre à débattre ». La question que je me pose, c'est « l'a-t-on déjà vraiment su? » Là, aujourd'hui, on fait juste voir ce qui est... On rend explicite des dynamiques qui, à mon sens, étaient déjà là. Je pense pas que les gens, en 1970, savaient mieux débattre qu'aujourd'hui.
En effet, c'est deux choses l'une. Soit on n'a jamais vraiment su débattre, soit on a toujours en partie pu débattre. Et aussi, il y a la taverne et les commentaires un peu moins subtils ou bien tournés qui peuplent le décor. William Corbatly, pour terminer sur la question des réseaux sociaux, on est obligé de passer, puisqu'on est là, par les fausses nouvelles. Il y a quand même un phénomène là, qui s'inscrit aussi dans l'affaiblissement parallèle des médias traditionnels qui, eux, on l'espérait en tout cas, transporter une information vérifiée, vérifiable, fiable, et ainsi de suite. Quoique, on sait bien que même les médias traditionnels ont leur ligne éditoriale, et ainsi de suite, ont un public cible, chacun d'entre eux. Bon, bref, reste que il y a des gens, moi je découvre avec stupeur, année après année, qu'il y a un nombre considérable de gens qui pensent que la Terre est plate, même si les
même
photos
à la ville
de
Gatineau.
Oui, c'est ces photos de monsieur. Oui, même dans les conseillers municipaux. Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? C'est une espèce de refus. Est-ce que c'est nouveau, ce phénomène-là? Est-ce que c'est à cause des réseaux sociaux ou c'est parce qu'on ne fait que voir quelque chose qu'on voyait moins avant?
Bon, en fait, c'est que c'est pas à cause des réseaux sociaux. Les fausses nouvelles existaient tout le temps, mais selon différents... Comme il a dit mon collègue ici, c'est que...
On appelait ça des rumeurs.
C'est ça. Alors, mais là, avec les médias sociaux, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont démocratisé l'opinion personnelle ou bien l'opinion publique. Comme il a dit, tout le monde... maintenant est capable de dire ce qu'il veut.
Vous pouvez dire mon oncle Jacques si vous voulez.
Bon, j'aime pas utiliser ce genre de terme, mais peu importe.
Alors, ma tante Fatou, tiens, on dirait.
Oui, c'est ça. Bon, peu importe ma tante ou mon oncle, toute personne peut le dire, là, que ce soit un jeune ou un moins jeune. Maintenant, pour les fausses nouvelles spécifiquement, mais c'est ça, les médias sociaux ont amplifié ce phénomène. Ils l'ont amené plus sur la scène publique. Et le problème... pourquoi il est assez fort? Parce que les gens ont dit qu'ils doivent mieux apprendre à débattre, mais c'est pas ça nécessairement, c'est qu'ils doivent lire le contenu des faits et pas juste les titres, et partager genre aveuglement les toutes sortes de nouvelles.
Alors, c'est... vous dites qu'il faut qu'un apprentissage vienne avec ça, c'est-à-dire qu'on va, avec le temps, apprendre à décanter les nouvelles plus fiables, les moins fiables. On n'est peut-être pas rendu là.
Exact. Et ça, on peut le faire, mettons, dans le réseau d'éducation, mettons. Alors, sur une matière complètement... Écoutez, là, quand on lit quelque chose, il faut la lire en profondeur. Parce que surtout je dis moi ou toute personne qui essaie le plus possible de ne pas tomber dans ce piège, on tombe quand même dans ce piège parce que là on a des fausses nouvelles qui et c'est quoi une fausse nouvelle? C'est que on amène quelques éléments véridiques on le met dans un article, on construit tout un contexte. Et là, parce que...
Comme le fait tout bon mythomane, finalement. Il y a toujours un fond
de... C'est ça. Et on veut passer la fausse nouvelle, genre à la fin ou au milieu, sans nécessairement la détecter. Alors, et c'est pour cela qu'il faut avoir plus d'éducation au niveau de... Surtout maintenant, peut-être pour le moins jeune, c'est un peu tard, mais pour vraiment investir dans la nouvelle génération, dans les réseaux d'éducation quand même, une matière complètement consacrée à comment lire les médias, comment utiliser les médias sociaux, etc.
La nouvelle génération qui, par ailleurs, ayant grandi dans ça, aura probablement les anticorps un peu plus aiguisés, oui. Forcément. Hein, c'est oui. toujours comme ça. Maintenant, on arrive au phénomène du deepfake. À notre époque, c'est cette façon, ces programmes qui permettent de faire dire à quelqu'un, de prendre une vidéo, de vous montrer le vrai Donald Trump, qui est en fait un faux, par exemple, dire absolument n'importe quoi. Là, vous me direz, c'est déjà ce qu'il fait. C'est justement ce qui rend la fausse nouvelle véridique dans ce cas-ci, parfois, peut-être, mais oui. est-ce qu'il va falloir, Ludovic Moquin-Baudry, légiférer contre ça? Est-ce que... On sait que le président Macron, par exemple, essaie de... Je sais pas où est-ce qu'ils en sont là-bas, on demandera à Nicolas Vidal sur cette volonté d'essayer de réglementer, de régir, de gérer le flot de fausses nouvelles.
Ben, c'est difficile de légiférer sur ce genre de phénomène-là. À mon sens, je vais abonder dans le même sens que mon collègue, dans le sens... Je pense qu'il faut d'abord et avant tout éduquer les gens. C'est prendre la voie longue. On peut avoir l'impression qu'on peut interdire puis que de là, on va avoir une solution rapide. Mais pour moi, c'est mettre un plaster sur une fracture ouverte, là, dans le sens où ça ne fera à peu près rien. Peut-être pendant quelques mois, au mieux quelques années, il va y avoir une diminution du phénomène. Mais je veux dire, le phénomène du deepfake ou des fake news de manière générale, c'est un phénomène qui justement cherche à passer par les marges, passer par les failles, que ce soit de l'information, que ce soit de la rationalité, que ce soit finalement des institutions elles-mêmes. Donc, légiférer sur quelque chose qui, à la base même, se veut ingouvernable, pour moi, c'est une voie qui est vaine. Il faut plutôt outiller les gens, et ça passe par des investissements majeurs dans notre réseau d'éducation et dans les déterminants sociaux à la base de l'éducation, parce que c'est bien beau d'envoyer des enfants à l'école, mais s'ils n'ont pas les circonstances familiales, économiques, sociales qui leur permettent d'avoir de l'apprentissage et que cet apprentissage-là leur soit utile, ben ça servira à rien. Et c'est ce que la plupart des gouvernements en ce moment me semblent ignorer. En tout cas, les 10 dernières années au Québec, au moins.
Si tu me permets, juste parce oui, que là, oui, il y a un enjeu aussi de liberté d'expression. C'est ça la fine ligne. Alors, c'est pour ça que c'est dangereux de légiférer. On arrête où? Surtout
oui, alors,
en Occident.
Où est l'opinion? Où voilà. est la fausse nouvelle? Bon, on a fait le tour des réseaux sociaux, que la forme influe plus ou moins sur le fond. Le fond est toujours là. Parmi les mouvements que vous avez identifiés, les mouvements des plaques tectoniques que vous avez identifiés, qui ont marqué la décennie 2010, bien sûr, cette montée de diverses formes de populisme, certains ont parlé du retour du national ou des peuples contre, par exemple, la...
Alors là,
je vais employer des images. Voilà. Alors là, il y a l'autre. Oui. Ça, c'est un thème cher à la gauche. Plus à droite ou plus chez les conservateurs, on dirait que l'élite mondialisée est un peu en rupture avec un peuple qui se sent un peu, comment dire, tassé dans le coin par les contre-coups de la mondialisation. Oui. Commençons par vous, William Corbatley, puisque ça a l'air de vous tenter. Ouais. D'où ça vient? Est-ce que c'est terminé? Et puis...
C'est pas terminé encore, je pense, là, mais je pense que dans cette prochaine décennie, ça va se terminer dans cette prochaine décennie. Ça, je suis optimiste là-dessus. Là, j'espère que ça va terminer dans cette prochaine décennie. Mais le problème, parce que ça, pour moi, c'est un échec des politiques libérales. Quand je dis libérales, dans le sens large...
Ah, vous ne parlez pas de votre parti, évidemment.
Non, je parle dans le sens large, parce qu'on a trop insisté sur l'économie au détriment de la personne. Et c'est là ce qui a causé des personnes comme Donald Trump de venir et dire « Ah, ils vous ont oublié, etc. » On parle des chiffres alors qu'ils ont oublié le vrai peuple, etc. etc. Alors, c'est à cause de ça, selon moi, pourquoi ces mouvements ont eu plus de force. Alors, c'est maintenant, dans la prochaine décennie, j'espère que ces mouvements, ou bien cette crise de démocratie va se régler et on va se tourner plus vers la personne en tant que telle, vers l'humain, au lieu vraiment des chiffres en tant que telle.
Ludovic Moquin-Baudry, là, je m'adresse aux solidaires, peut-être, ou pas, je sais pas, mais c'est mon idée en tout cas, parce que ça tombe bien, les divers courants de la gauche ont été, à travers ce phénomène de montée des populismes, accusés ou pointés du doigt comme étant parfois les alliés objectifs justement de la libéralisation.
Ce qui est très curieux.
Par l'abattement des frontières. En fait,
ouais,
vous voyez.
Ça, ce qui est très curieux, bon. Parce que les frontières ont d'abord été abattues par des traités de libre-échange.
Tout à fait.
Et dont les indépendantistes du PQ ont été les plus grands cheerleaders au Québec. On pense à Bernard Landry notamment. Et on pourrait, même François Legault, je crois, qui était dans les années 90, un franc partisan de ce genre d'accord économique.
On peut le dire sans craindre de trop se tromper.
Et c'est ça.
C'était des souverainistes toutefois. Donc l'idée ici était de permettre au Québec de dépendre d'autres marchés que seulement du marché canadien,
je le dis
à leur défense. Là.
Mais que ce soit les conservateurs, c'est les conservateurs de Brian Mulroney qui ont passé l'ALENA. Les libéraux, selon à qui on parlait à cette époque-là, étaient un peu ambivalents, mais finalement, ils sont rentrés dans le train assez rapidement. Je veux dire, les responsables sont de ce côté-là. C'est bien facile après ça de regarder vers des groupuscules de gauche qui parlent fort. Puis qui...
Ben, c'est-à-dire qu'on parle des gauches, parce que le PQ était vu comme la gauche d'une certaine façon. Hein?
Oui.
Et aussi, je pense qu'on réfère au phénomène de l'immigration, notamment. Donc, toujours plus, votre ami, je fais une blague, Bocoté, dirait l'immigration massive.
Elle est toujours massive dans sa bouche.
Ben voilà. Est-ce que, effectivement, l'appui de la gauche à l'ouverture comme ça, tous azimuts, n'est pas d'une certaine façon aussi un appui à des politiques plus néolibérales, puisqu'on veut faire pression.
C'est justement
à la
le glissement de sens qui me semble très dangereux.
Et puis aussi une atteinte au national, vous voyez, à l'identité.
Parce que la gauche, en tout cas, la gauche à laquelle j'appartiens, parce qu'il y a des gauches, puis je pense qu'elles sont loin d'être unanimes là-dessus. J'ai eu
débats. Il y a des droites.
Exactement. J'ai eu des débats assez acerbes à gauche sur ce genre de questions-là. Je veux dire, accueillir des gens ici, que ce soit de l'immigration, je pense pas. On me corrigera si je me trompe, mais je pense pas qu'il y ait qui que ce soit à Québec solidaire qui ait réclamé une abolition des plafonds d'immigration depuis la création du parti. Je connais pas grand monde à gauche qui dit ça non plus. Je pense qu'il faut accueillir les gens parce que je pense qu'on a un devoir en tant qu'humain de le faire. Mais à gauche, on a aussi toujours milité pour augmenter le niveau de vie des gens, le salaire minimum, les protections sociales, les protections environnementales. Donc, on a été au front contre les avancées néolibérales, que ce soit des gouvernements Charest ou Bouchard avant lui. Je veux dire, la gauche était là pour défendre monsieur, madame, tout le monde, pour créer des conditions qui soient favorables à tout le monde, que ce soit le Québécois ou la Québécoise dont les ancêtres sont arrivés ici au 16e, 17e siècle, disons, ou que ce soit pour les gens qui sont arrivés plus récemment.
Mais au point du
l'inclusion
doigt,
ne se traduit pas, pour moi, en politique néolibérale, tout comme une politique néolibérale ne se traduit pas en inclusion nécessairement. Il y a des néolibéraux inclusifs et exclusifs. Je considère que François Legault est un néolibéral, mais qui veut ça pour des Québécois qui soit un peu plus homogène, alors que du côté du Parti libéral, si je regarde Philippe Couillard, c'était quelqu'un qui appliquait une politique férocement néolibérale, mais qui était très, très inclusif. Pour moi, c'est justement faire un raccourci intellectuel que d'associer la gauche nécessairement avec le néolibéralisme. Pour moi, c'est même de l'antithèse. Et là,
comme vous le dites, il y a un paquet de gauches différentes, il y a un paquet de pays dans lesquels ça se décline différemment. Mais vous n'observez pas, vous, une difficulté de la gauche au sens large, disons-le, là, comme ça, pour à bien intégrer la question identitaire, la peur qu'ont les peuples en ce moment un peu partout de l'immigration, disons-le comme ça, ou de certaines immigrations.
Je pourrais pas faire un
on voit
jugement...
Jean-Luc Mélenchon en France, par exemple, sans cesse naviguer dans ces eaux de troubles-là, on essayait parfois d'être plus, par exemple, en faveur de la laïcité à la française, puis ensuite il revient plutôt dans une ligne plus semblable à celle de Québec solidaire.
C'est pas un sujet qui est facile parce que la gauche essaie justement de défendre son principe historique parce que...
D'inclure,
puis on remonte au 19e siècle, début 20e siècle, on écoutera les partis de gauche, puis leur discours, c'était, tous les humains sont nos frères, il y a plus de ressemblance entre les classes ouvrières d'un pays à l'autre qu'entre la classe ouvrière d'un pays et sa bourgeoisie, je veux dire, c'est historique, ça, à gauche, cet aspect inclusif des gens qui sont au bas de l'échelle sociale. Après ça, dans la façon dont la question est polarisée en ce moment, oui, il faut reconnaître qu'il y a une difficulté à en parler. Je pense qu'il y a des tentatives aussi. Je veux dire, Québec solidaire, pour moi, ça, c'est pas un virage, mais ça a été perçu comme tel, a affirmé sa position indépendantiste. Pour moi, ça allait dans la suite des choses. Là. Ce qui s'est passé au congrès de cet automne a semblé en surprendre quelques-uns. Pour moi, ça va de soi, mais c'est juste que...
Ça mystifie beaucoup de gens de la droite plus conservateur qui disent comment peut-on être souverainiste et à la fois négliger l'élément de l'identité?
Pour moi, l'identité, elle se construit, elle se redéfinit avec les générations. L'identité québécoise de 2020 n'est pas celle de 1960.
Elle est en évolution.
N'est pas celle de 1900. Et on continuera comme ça à évoluer dans nos identités. Et c'est justement de nier cette dynamique, hein, cette transformation perpétuelle de la culture et de l'identité. Pour moi, c'est ça qui va finir par tuer l'identité. Les gens qui prétendent défendre la culture en défendant une espèce de moule ou de liste d'épicerie de choses qu'on doit dire, faire, lire ou ne pas faire, ne pas dire, ne pas lire. Pour moi, c'est ces gens-là qui étreignent tellement leur culture qu'ils sont en train de l'étouffer.
Très intéressant. Donc, trop d'identité.
Finit par tuer l'identité.
C'est plus d'identité, dites-vous. Parlons-en avec Nicolas Vidal, qui est à Paris. On va prendre une couleur un peu française, européenne. Mais de toute façon, les sujets se recoupent sans doute. Nicolas Vidal, d'abord, bonjour. Merci d'être avec nous.
Bonjour, Nick Payne.
Il y a beaucoup d'actions chez vous. Très bien, merci. Vous aussi, je le sais parce que vous me l'avez dit sur Facebook tout à l'heure. Donc, je voilà. Vous avez, cette réforme des retraites qui n'aboutit pas. Beaucoup d'actions en ces jours-ci, plus près de vous, notamment cette évasion rocambolesque du dirigeant, d'ancien dirigeant de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, qui fuit le Japon comme ça dans une boîte, on ne sait trop. Qui passe par Istanbul pour se retrouver au Liban. On en parlera sans doute. Mais commençons par ce retour, cette prise de perspective sur les années 2010 à 2019. Vous nous avez peut-être entendu, nous parlons ici évidemment de la montée des populismes et de l'effet, ou non peut-être, du phénomène des réseaux sociaux sur le débat public. Vous, vu de Paris, de quoi ça a l'air tout ça?
Alors, moi, c'est très intéressant, je vous ai écouté avec beaucoup d'enthousiasme, et vous avez parlé, Nick, la réforme des retraites, je crois que c'est le point d'orgue de ce qui se passe en France et de ce qui se passe en Europe. Parce que en France, ici, on n'arrête plus la contestation sociale. Hein. On a une chance incroyable parce que nous sommes presque tous devenus ici, nous, les gens de la classe moyenne, hein, des champions pour organiser une grève, comprendre les techniques de maintien de l'ordre, organiser des blocages de toutes sortes, allumer des braseros à 4h du matin sur des piquets de grève. Donc, vous le savez, ça fait 35 jours de manifestation ici, de blocage, de grève des métros et des trains, des blocages de raffineries, des ouvertures de péages, des défilés au flambeau, notamment à Marseille, de manifestations sauvages et d'occupations de gares. Bref, c'est une animation quotidienne ici en France sur une bonne partie du territoire. Bon, et plus sérieusement, Nick, la France est coincée dans une étroite et longue impasse avec cette réforme des retraites par points que veut absolument mener à bien Emmanuel Macron, tel un adolescent capricieux. Parce qu'il veut sa réforme, Emmanuel Macron, et il l'a répété lors des vœux du 31 décembre. Et vous allez voir où je veux en venir. Alors, depuis 35 jours, les membres du gouvernement et certains députés de la majorité sont envoyés au front. Quand je parle du front, je parle des plateaux de télévision et de radio comme des canards sans tête pour tenter d'expliquer que cette réforme est formidable, plus juste, plus égalitaire, plus universelle, etc., etc. Et pour ainsi dire, ce n'est pas très brillant. Et pour être franc, hein, les Français y voient l'exact contraire. Parce que cette réforme, pour eux, elle est plus inégalitaire, plus dure, plus brutale et plus injuste, hein, selon eux. Et malgré le pilonnage de certains grands médias mainstream, rien n'y fait, les Français sont majoritairement contre. En fait, je vais revenir à la première question. En fait, ce mouvement de grève, il faut bien comprendre que c'est le format XXL des Gilets jaunes. Vous savez, ces vilains Français qui ont eu l'outrecuidance de revendiquer du pouvoir d'achat, de la justice sociale et un peu de démocratie, somme toute. Alors les voilà, les nouveaux sans-culottes qui exigent de la démocratie directe et du mandat révocatoire. Retour en 1792. Et en fait, ce qui se joue en France, Nick, c'est que cette réforme des retraites par points n'est pas un jouet qu'Emmanuel Macron a trouvé dans une boîte de lessive. Non, pas du tout. C'est une directive de celle-là, très fameuse et très démocratique, Commission européenne. Vous voyez ce que je veux dire? Emmanuel Macron, en tant que bon élève néolibéral, et on y revient, j'ai beaucoup entendu le mot néolibéral chez vous, donc Emmanuel Macron, installé au premier rang de la classe à Bruxelles, veut rendre une copie parfaite à ses chers technocrates bruxellois, tout en faisant plaisir au passage à BlackRock. Parce que ça, c'est la grosse polémique aujourd'hui en France. BlackRock, ce gestionnaire d'actifs américains, qui lorgne sur la privatisation des retraites. Et vous me direz, pour un marché à venir de 300 milliards, on peut être un brin philanthrope. Donc, pour moi, ce qui a marqué la décennie en France, qui vient de s'écouler ici, c'est justement ce retour du peuple, cette résurrection de cette France périphérique que la classe politique a oubliée, qu'elle a même reléguée hein, dans les cartons électoraux qu'on ressort chaque 5 ans, vous savez, parce qu'on parle de démocratie ici, sans parler du profond mépris que les classes supérieures mondialisées ont pour cette France du lointain. Eh bien, la voilà, hein, depuis un an, cette France périphérique, eh ben, elle sort dans la rue, en jaune, et maintenant en rouge, hein, quand je dis les rouges, c'est des syndiqués, tous syndicats confondus, hein, à la base, ça c'est extrêmement intéressant, car la bonne vieille recette du bipartisme confortable de nos élites vient de se casser tout bonnement la gueule. Et ce fut pourtant la meilleure façon de soumettre les Français à la mondialisation heureuse hein, qu'on nous vend depuis 30 ans, voire plus, et bien c'est raté parce que c'est le retour d'une bonne vieille lutte des classes, mais version monde globalisé. Alors, le peuple, ici, il fait son retour en grondant, la France périphérique, je précise, sur le devant de la scène, et les syndicats, les leaders syndicaux sont manifestement à la traîne et suivent ce mouvement-là, alors que la classe politique, en ce moment, hein, vraiment, est comme un lapin pris dans les phares d'une voiture et que les grands médias mainstream tentent d'expliquer l'inexplicable parce que le réel, ça fait bien longtemps qu'ils n'en parlent plus du réel, les grands médias. Alors oui, mon cher Nick, hein, les sans-dents, ben, ceux qui mangent avec les dents, ceux qui mangent avec les doigts, pardon, les Gaulois réfractaires ont repris la nation en main.
Alors les sans-dents, bien sûr, c'est cette expression oui. Rapportée par Valérie Trier-Vellaire qu'aurait employé François Hollande en privé.
Exactement, Emmanuel Macron n'est pas avare de réflexion.
Avec les Gaulois réfractaires, oui. Mais dites-moi, ce mouvement populiste dont vous parlez, ou cette révolte du peuple, cette insurrection même, puisque vous avez en France la culture insurrectionnelle davantage, bien davantage qu'ici, culmine, c'était en 2016, je crois, avec non pas l'élection d'un parti populiste ou d'un président populiste, mais d'Emmanuel Macron, auquel colle toujours cette image de président des riches, président de la mondialisation et tout. Comment se fait-il que vous n'ayez pas votre Trump, votre Salvini, même votre Legault à la rigueur, même si on n'est pas tout à fait dans les mêmes paramètres ici au Québec? Est-ce que c'est parce que la marque Le Pen, Front National, fait échouer ce courant-là chez vous?
Ben, comme je vous le disais plusieurs fois à l'antenne, je pense très sincèrement qu'on a le problème central que nous avons en France, c'est que la majorité, voire la quasi-totalité de la classe politique est pour l'Europe, est néolibérale ou très libérale du moins. Et même Marine Le Pen a reculé sur la sortie de l'Union européenne. Donc elle n'a plus de ligne claire. Marine Le Pen est de celles qui disent maintenant l'Europe, nous pouvons la changer de l'intérieur. Et quand nous parlons, vous parliez de populisme tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant le terme populisme, parce que pour moi le populisme, c'est le discrédit jeté intellectuel à la base, au peuple, pour discréditer finalement son appétence ou son intérêt à pouvoir décider par lui-même. Finalement, le populisme, c'est quoi? Pour moi, c'est l'émancipation par le bas, c'est l'émancipation du peuple de la France périphérique à qui on a fermé la porte de la souveraineté, à qui on a fermé la porte de la démocratie. On rappellera toujours en France hein, le traité de Lisbonne 2005 où les Français votent non et Nicolas Sarkozy le fait passer en force au Parlement. Voyez-vous, c'est aujourd'hui le peuple, la France périphérique, je vais préciser, a compris que la politique néolibérale menée par Emmanuel Macron, mais elle a commencé bien avant la politique néolibérale sous Bruxelles, hein, la fameuse souveraineté européenne, le peuple a bien compris qu'il avait été mis, cette politique se fait à l'abri du peuple, totalement. Juncker l'avait dit en 2015, hein, il a dit les traités européens n'ont pas valeur démocratique. Vous voyez, c'est tout ce qui se joue là. Donc quand on parle de populisme ici en France, du moins, c'est pour excommunier finalement l'intérêt ou l'ardente communication ou intelligence du peuple, intelligence populaire, donc c'est le mépris permanent en disant le peuple n'est pas suffisamment éclairé pour pouvoir décider de lui-même, donc il ne sert à rien de faire un référendum. Aujourd'hui, je crois qu'il a la situation de crise, et on arrive à cette question de la décennie, les Gilets jaunes ont marqué profondément cette décennie en France, parce qu'il faudrait faire un référendum, voyez-vous Nick, pour demander à un moment donné si les Français sont d'accord. Parce qu'au-delà de la retraite par points, qu'est-ce qui se joue en France? C'est le dernier verrou de la politique néolibérale. Si la retraite par points passe, Emmanuel Macron aura tout le champ libre pour finalement privatiser la France. On a parlé d'ADP, on a parlé d'Engie, des barrages, des autoroutes, c'est bien plus ancien, la Française des Jeux. Donc Emmanuel Macron est en train de privatiser des larges parts de la France, de la nation souveraine, ce qui est notre socle historique et notre acquis social. Rappelons la réforme des retraites, c'est un acquis du CNR après 45. Donc c'est fracasser le pacte social qui a fait la France d'après-guerre. Je crois qu'aujourd'hui, ça mériterait un référendum. Donc voyez-vous, on est pile poil là-dedans, on est entre le néolibéralisme est-il compatible, c'est ça la question, est-il compatible avec la démocratie? Voilà, et est-il compatible avec les intérêts du peuple? Alors, est-ce que c'est se servir ou servir la nation? C'est alors, vraiment cette question aujourd'hui qui se pose.
Et en quelques mots, je sais que je vous demande quelque chose de difficile, mais qu'est-ce qui s'en vient? Quels sont les dossiers? Alors, bien sûr, ce dossier de la réforme des retraites est à suivre dans l'immédiat. Un peu plus à long terme, en 2020, comment voyez-vous l'avenir en France, en Europe?
Ah ben là, je vais vous répondre tout de go. Hein. Aujourd'hui, ce qui se passe en France est extrêmement important. Il faut avoir un point de vue beaucoup plus large qui se passe. Pour moi, aujourd'hui, cette réforme des retraites, c'est le crash test néolibéral d'Emmanuel Macron face au bloc. C'est le bloc contre bloc aujourd'hui en France. Parce que l'État, lui, il rêve, Emmanuel Macron, qui incarne l'État, hein, et l'État aujourd'hui est bien différencié de la nation. L'État aujourd'hui, ben, lui, il rêve du grand large mondialisé, de l'optimisation fiscale, des privatisations et de la réforme des retraites. Donc, c'est un crash test absolu entre un président qui veut concasser la France dans une politique néolibérale et un peuple aujourd'hui qui a compris que ses intérêts ne sont plus sauvegardés. Voilà. Et c'est tout le problème de la Ve République avec un président très fort. Encore faut-il, dans cet esprit gaullien, que le président puisse préserver les intérêts du peuple souverain. Voyez-vous, c'est ça qui se joue aujourd'hui en France avec la réforme des retraites. Donc c'est beaucoup plus large que ça. Donc il y a eu les Gilets jaunes et maintenant il y a une large partie de la population qui est vent debout contre cette réforme. Je rappelle que cette semaine, il y a quand même deux mobilisations nationales, jeudi et samedi, donc c'est énorme.
Hein. Alors nous verrons ce que fera votre monarque élu, Nicolas Vidal. On aurait pu continuer pendant une demi-heure. Merci beaucoup de nous avoir donné un petit clin d'œil comme ça sur la France et l'Europe. Merci à vous. À la prochaine.
Au revoir, merci.
Alors revenons ici, chez nous, à nos moutons, à ce qui nous intéresse pour 2020. Ludovic Moquin-Baudry, à moins que vous ayez, il nous reste quelques minutes, un sujet dont vous voulez parler pour la décennie 2010, parce qu'on a escamoté beaucoup de choses, il y a tellement de questions. Alors, vous avez le choix entre l'avenir et le passé.
On va parler de l'avenir un petit peu pour les quelques minutes qui nous restent.
Allons-y.
Je pense que pour l'année qui vient, en tout cas, j'aime pas beaucoup faire des prédictions, mais je vais y aller avec des choses assez sûres. Je crois que la crise au Moyen-Orient qui a commencé dans les... Elle n'a pas commencé dans les derniers jours, mais dont le dernier épisode a commencé ces derniers jours avec les assassinats en Irak par les États-Unis.
L'assassinat du général Soleimani.
Exact.
Cet homme dont on constate qu'il était très, très aimé en Iran. C'est un leader essentiel
et
là-bas.
Et numéro un de la première milice chiite en Irak, dont le Hashtel... j'ai oublié le nom.
Mohandes.
Voilà. Donc cette crise-là, pour moi, elle va s'envenimer et on ne sait jamais dans quelle direction ça va partir.
Alors je pose la question plate, là, est-ce que c'est la bonne vieille guerre pour gagner ces élections de M. Trump? J'ose croire que c'est plus complexe que ça.
J'aimerais aussi le croire, mais je ne pense pas que l'être Trump soit d'une très grande complexité. Donc je pense que il est en train de faire ce qu'il accusait Obama de vouloir faire en 2012. Donc je crois que
disait lui-même, M. Trump, vouloir en finir avec les guerres interminables qui ne finissent jamais.
Ben, on ne va pas appliquer un critère de cohérence à Donald Trump. Je pense que là, on n'en est plus là. On n'est plus en 2016. Là. Également, je pense que l'élection américaine va marquer l'année, bien sûr. La primaire démocrate qui s'annonce tout aussi imprévisible qu'il y a un an. Et donc, ça va être très intéressant à regarder. L'environnement, pour moi, bon, les feux en Australie en ce moment, c'est assez important, c'est assez spectaculaire et ça parle beaucoup de notre incapacité à agir et à quel point nos politiques ont un effet. Parce que si on regarde une des causes principales des feux en Australie, outre le réchauffement, c'est la mauvaise gestion forestière et des terres. Donc, où il s'est retrouvé beaucoup d'eucalyptus qui, dans les cycles naturels, se retrouvaient brûlés périodiquement. Et là, on crée des conditions d'assèchement. Bref, sinon, rapidement, l'Écosse. Je crois qu'avec le Brexit qui se concrétise et les volontés indépendantistes de Nicola Sturgeon qui se font toujours plus fortes, ça va être à surveiller. Également, sur nos tonalités, les procès pour agression sexuelle, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein et ici Eric Salvay. Je pense que ça va faire discuter dans la suite du mouvement MeToo.
Fini de parler de ça sans doute. William Corbatley, ce qui s'en vient. Et puis, notre metteur en ondes m'a demandé de vous demander comment ça va... Vous avez dit que ça va finir dans la prochaine décennie, le mouvement des populismes. Ça va finir comment?
On
va probablement trouver des leaders...
Par pas avoir cette importance-là. ouais, comme, okay. comme maintenant, là, vont pas avoir nécessairement la même influence sur la politique en général.
On aura fait le tour de la question.
Voilà, c'est ça. Les gens vont se recentrer en... L'histoire m'enseigne ça, là. Alors, ça, c'est pour ça spécifiquement. Maintenant, pour le 2020, ben, l'année alcoolique, comme on dit, 2020,
ah.
c'est que la réalité...
Ça y est, la farce de mon oncle est lancée.
Voilà,
ça sera venu de vous.
La réalité
mon oncle
va...
William.
Oui. La réalité va rattraper, en fait, la CAQ et ils vont avoir leur juste valeur.
On n'a pas eu le temps de parler du baromètre des personnalités. Monsieur Legault, qui est toujours au fait de sa popularité, bon, c'est assez exceptionnel
pense,
pour un premier ministre.
Je pense que cette année, parce que là, il a plusieurs... Il a terminé par ses affaires, là, ben, la loi 21, la loi sur l'immigration et tout ça. Bien sûr, on est toujours en discussion, c'est pas encore terminé, mais concernant les projets de loi en tant que tels, ses promesses principales, on parle des commissions scolaires, la loi 40 présentement, on parle des maisons des aînés, on parle d'Hydro-Québec aussi. Avec le temps, on va voir comment les choses vont leur montrer qu'ils avaient tort, je pense. En tout cas, la réalité va les rattraper.
Fin de la lune de miel.
C'est ça. Et on est dans l'année des leaders, en fait. Que ce soit au niveau de PQ, PLQ, Parti vert, le Parti conservateur, on va voir... Cette année, tous des nouveaux chefs.
Parti conservateur au Canada, c'est
alors,
vrai.
C'est ça. Alors, à part ça, par rapport à l'Iran, rapidement, là, c'est juste... si on a assassiné Soleimani, là, il y a des centaines de Soleimani dans l'armée iranienne, là. Alors ça, c'est sûr et certain, parce que toutes ces personnes-là sont éduquées d'une façon idéologique. Dès le début, là. Alors, tout le monde, peut se différencier de l'autre, mais s'ils ont tué Soleimani, mais facilement, ils vont avoir un autre Soleimani.
On n'est pas dans James Bond ici, c'est pas un homme seul, un savant
exactement, il y a des centaines de Soleimani, mais c'est juste... alors, est-ce qu'il va avoir une guerre? Pas nécessairement, là. Trump, la réalité va rattraper Trump aussi. Il est en train de jouer un jeu très, très dangereux pour favoriser son élection aux États-Unis. Mais écoute, là, c'est sûr que l'Iran, présentement, prépare plusieurs répliques. Et là, est-ce qu'il va appliquer ses menaces, Trump, par rapport à ces répliques-là? Bon, écoute...
Alors, c'est une escalade, évidemment. Dans les deux cas, il y a des cibles dans la région potentielle.
Oui,
sauf
oui,
que
oui,
l'un
c'est...
appelle la réponse de l'autre et on n'en finit plus. Oui, c'est pas... Enfin, disons que ça crée du stress pour beaucoup de gens tout de même qui observent la situation... Dans ce coin-là du monde. Et pour ceux qui craignent une réélection, par ailleurs, de Donald Trump plus près de chez nous, vous parliez, Ludovic Moquin-Baudry, d'élection qui s'en vient aux États-Unis. Chez les démocrates, Bernie Sanders est bon deuxième dans la course en ce moment.
Il y a deux sondages qui sont sortis hier, si je m'abuse. Bernie Sanders est premier à égalité avec Buttigieg et Biden en Iowa, et il est premier au New Hampshire. Et on sait ce que ça peut avoir comme effet d'entraînement, hein, une bonne performance dans les premiers États à voter. Mais si je devais faire une prédiction, puis là, je touche du bois, là, je pense que la nomination démocrate va se jouer à la convention. Il y a personne qui va arriver au mois de mai-juin, là, aux dernières primaires, avec une majorité de délégués. Donc, ça va se décider en juillet pour une première fois depuis... il faudrait ouvrir les livres d'histoire, mais ça fait très longtemps qu'on a eu ça.
Et William Corbatly parlait de fin de lune de miel pour la CAQ. À un moment donné, cette prévision-là va finir par se réaliser.
Oui, mais je veux dire, moi, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on s'étonne de la lune de miel de la CAQ en ce moment. Ils ont été élus le 1er octobre 2018. Ça fait à peine plus d'un an et trois mois à peu près.
Et le PQ et le PLQ sont hors-jeu un peu.
Oui, c'est ça. Mais rappelons-nous, Justin Trudeau, plus d'un an et demi après son élection, il était encore à 47% d'intention de vote au Québec. Je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans.
Alors bref, voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel. On s'est énervé pour rien. Merci beaucoup, Ludovic Moquin-Baudry. C'est quand même très apprécié. Pas quand même, c'est très apprécié de vous avoir avec
Merci.
Nous. Au plaisir de vous revoir bientôt. On sait que votre travail de prof vous tient loin de nous parfois, mais on pense à vous. Merci beaucoup, William Corbatly. On vous revoit très bientôt, probablement la semaine prochaine, si Dieu le veut, comme on dit. Oui. Merci, Daniel Fortin, la mise en onde. Chers auditeurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute. À lundi prochain.